Il y a une limite de 2 minutes pour les interventions. Est-ce que vous pourriez élaborer pourquoi ce serait faux de...
Comment et pourquoi peut-on dire crise du capitalisme ? Allez-y.
Pourquoi est-ce que j'ai employé le mot crise ? Et est-ce que vous pourriez
est-ce
dire...
qu'on peut employer le mot en plus actuellement de crise du capitalisme ? Pour moi, il est à son apogée. Je ne comprends pas le mot crise.
Ok. Moi, je dis crise... Parce que excusez-moi. Moi, je dis crise parce que surtout dans la nouvelle phase qui a commencé au début des années 70, il y a une contradiction flagrante entre l'expansion du capital en tant que capital et surtout cette forme de capital fictif d'un côté et en même temps une contraction de la reproduction matérielle de la société en termes d'une contraction du salaire global et aussi dans beaucoup de cas même une contraction dans le capital fixe et dans le capital fixe. Dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis par exemple, il y a un énorme déficit d'infrastructures. On a vu à Nouvelle-Orléans en 2005 l'ouragan Katrina, on vient de voir à New York l'ouragan Sandy. Ça fait en partie une crise, c'est un phénomène naturel entre guillemets, mais un phénomène naturel qu'il faut comprendre dans le contexte du global warming, et de l'autre côté, un manque sérieux d'infrastructures. Et ce ne sont que des exemples extrêmes. Au total, on a calculé que pour réparer, tout simplement pour rénover l'infrastructure qui manque, il faudrait dépenser 2,3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 20% du PIB américain. Donc, c'est le produit d'une longue période de non-investissement, de non-remplacement, non seulement du capital fixe, mais aussi du capital variable, c'est-à-dire du salaire global. C'est pour ça que je dis crise. Les capitalistes eux-mêmes s'en tirent très bien avec leur profit sur le papier. Mais la réalité matérielle, c'est une contraction à l'échelle globale. Oui.
Je suis à peu près d'accord avec ce que tu as développé sur la crise et la situation. Mais il y a un point qui me paraît très important. Je crois que cette crise a marqué vraiment un changement dans le capitalisme aujourd'hui. Je vais l'expliquer à travers ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je pense que les dernières grèves sauvages et les 2 mois de grèves sauvages qui ont eu lieu en Afrique du Sud sont la préfiguration de ce que attend le capitalisme. Alors, il y a 5 ou 6 points que je ne vais pas forcément développer, mais les énumérer pour montrer ce que je veux dire. La première des choses, c'est justement une des marques de la crise du capitalisme qu'on a aujourd'hui. Dans les mines d'or et de platine, on a évidemment les travailleurs qui avaient un niveau de salaire très très bas. Le capitalisme continuait à vouloir baisser ce salaire. Et donc, impossibilité de vivre, il se révolte. Et donc c'est une des premières luttes, je pense, de les difficultés pour le capitalisme d'intégrer, avec des augmentations de salaire, etc., les grèves et de les faire arrêter. Donc on se situe là. Et deuxièmement, c'est évidemment avec les tentatives aujourd'hui que l'or redevienne une monnaie et la question de la spéculation. Bon, je ne développe pas, mais là aussi, c'est une des grèves qui préfigure la situation de crise du capitalisme. Ça, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est qu'on se retrouve avec un État, justement comme tu as développé, du keynésianisme finissant, dans lequel il y avait une réintégration du syndicat dans l'État. Le MOUM, qui est un syndicat officiel anti-apartheid, et avec l'ANC qui est au pouvoir, les grèves immédiatement prennent un caractère politique. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une lutte contre l'économique. Bon, c'est une lutte économique, mais dès qu'on fait grève en Afrique du Sud, on s'affronte à l'État. Et l'État, c'est avec, comme tu l'as développé, la nouvelle forme du capitalisme qui a pu exister dans les années 30, le keynésianisme, dans lequel les syndicats sont intégrés à l'État. Donc, troisième forme, c'est une lutte contre le keynésianisme et contre l'intégration du syndicat à l'État, qui était bon, le fascisme, évidemment les fronts populaires et le stalinisme. Donc, dans le tiers-monde, pratiquement dans tous les pays, le syndicat, c'était le syndicat officiel. Si on n'était pas syndiqué, on ne pouvait pas avoir un travail, et voilà. Donc, c'est une lutte véritablement contre, justement, comme tu as montré, la fin du keynésianisme. Et évidemment, immédiatement, c'est une lutte qui prend un caractère politique. Et ça, c'est très important. Et en Afrique du Sud, comme dans beaucoup de... comme en Chine, comme au Vietnam, où il y a des syndicats officiels, c'est tout de suite des luttes qui prennent un caractère politique, et c'est très important. Quatrième caractère, c'est immédiatement, on développe des comités de lutte. Comités de lutte, comités de grève, c'est déjà la préfiguration des soviets, des conseils ouvriers. Et donc, contre le syndicat, et les ouvriers s'organisent eux-mêmes. Et évidemment, ces grèves en masse, qu'ils obtiennent quand même un certain nombre de concessions. Évidemment, ce sera vite repris par l'inflation, par tout un tas de choses, etc. Mais dans un premier temps, c'est une... Et la grève en masse, ça me fait penser tout à fait à ce que Rosa Luxembourg a écrit, grève de masse, parti et syndicat. Là, si on avait réécrire le travail de Rosa Luxembourg, ce serait grève de masse, organisation peut-être, et conseil, comité de lutte, etc., à la place des syndicats. Donc, ces luttes aujourd'hui dans le tiers-monde préfigurent, tiers-monde entre guillemets, puisque maintenant c'est plus le tiers-monde, disons, des pays qui étaient en voie de développement, quoique l'Afrique du Sud c'est un pays excessivement développé, ce n'est pas la Chine, ni le Brésil, ni peut-être le Vietnam, hein. Mais voilà, et je pense que pour ces 5-6 caractères que j'ai développés, ces luttes-là préfigurent la nouvelle situation que nous allons rencontrer.
Je suis d'accord avec toi. Enfin, en gros. Je vais essayer de passer d'une section à l'autre.
Tu réponds d'abord, Lorraine ? Tu réponds d'abord à camarade ou tu prends une autre question ?
J'ai dit que j'étais d'accord avec ce qu'il a dit.
Moi, ce que je voulais appuyer, enfin, pour rebondir aussi, c'est que pour moi, le keynésianisme a sauvé le capitalisme aussi. Parce qu'en fait, les plans sociaux, quand il est en 1929, ça a retardé l'échéance. Et ce que je vois actuellement, moi, ce que j'essaie souvent de développer avec des amis, c'est que la chute du mur russe, stalinien, ça a permis d'ouvrir les frontières au capitalisme, qui a permis en fait, la crise que disait Marx, pour moi, c'était depuis les années 70, la chute des taux de profit, c'est-à-dire depuis les années 70, on connaît un chômage de masse en Europe, réduction des salaires, donc développement du capitalisme, la plus-value relative. Et ce que j'appellerais le néolibéralisme, pour moi, ça veut dire que c'est le changement du capitalisme, jusqu'au néolibéralisme avec la privatisation de la sécurité privée, avec Alain Bauer et les marchands de la peur. Et moi, actuellement, par exemple, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a, pour moi, le capitalisme aussi, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit ici, il est en crise, mais en même temps, il y a des garde-fous. Ça veut dire, je vois par exemple tout ce qui est crack pétrolier, ça veut dire le gaz de schisme, et en fait, permet de relancer les profits. Ça veut dire que c'est lié avec bon, la guerre d'Irak, entre guillemets, mais en Afghanistan, mais surtout ça relance les profits. Ça veut dire, par exemple, actuellement, au Détroit, par exemple, il y a une grave crise d'automobile, une grave crise. Mais en même temps, les gaz de schisme permettent de relancer les profits, de relancer encore une nouvelle guerre du pétrole, enfin, une nouvelle, comme on a connu à un moment donné. Et que pour moi, pour la Chine, par exemple, elle connaît les mêmes révolutions industrielles qu'a connu l'Europe. Donc ça veut dire qu'ils sont juste en décalé par rapport à l'Europe et qu'ils vont avoir les mêmes problèmes amplifiés. Et que quand la Chine et l'Asie seront touchés aussi, je pense que ça sera global, en fait. Donc après, je pense que... Voilà.
Ouais, c'est un commentaire très intéressant. Et en général, je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit. Alors, une question ici, de ce côté... enfin, ouais. Voilà... la jeune femme à la chemise blanche.
Pour revenir à ce que vous avez dit sur Occupy et Longview, je voulais juste savoir quel était votre point de vue sur les... puisque vous avez parlé des décisions propres au syndicat lui-même dans ce qui s'est passé, mais avec une vision plus globale sur ce qui s'est passé et comment la situation s'est terminée, est-ce que vous pensez qu'il y avait des limites internes au mouvement ? Parce que vous avez parlé du rapprochement entre c'est de la catégorie des précaires et des syndiqués. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ce que vous pensez qu'il y a pu être une limite interne au mouvement ou,
voilà. D'accord. D'abord, je n'aime pas répondre à des questions quand on vous voit. mais entre camarades, tu m'excuseras de te répondre avec tu. Oui, bien sûr, il y avait des limites. Je crois que tout s'est fait d'une façon très spontanée. Il y avait un développement très rapide des deux côtés. D'abord, du côté du syndicat officiel, les dockers de Longview, pendant un certain moment, avaient cru que leur syndicat allait les défendre. Il fallait un certain nombre de développements pour changer d'avis. Et de l'autre côté, l'idée de s'allier avec le mouvement ouvrier classique ou organisé, c'était aussi le produit d'une évolution dans Occupy. Et donc, tout s'est fait vraiment de façon très spontanée et très rapide. Et donc, sans doute, il y avait des insuffisances dans les formulations des deux côtés. Moi, je crois que... la majorité même d'Occupy qui était prêt à se solidariser avec les dockers de Longview se faisait un certain nombre d'illusions sur le syndicalisme lui-même, mais comme une première tentative, au total je le vois de façon très positive, enfin assez positive. Claude.
Oui. Attends. C'est bon, j'arrive. Ça va là ? Oui. J'ai l'impression que tu es en train de nous expliquer que ce qui s'est passé entre 1914 et 1945, ta perspective, j'ai l'impression que c'est rebelote.
C'est
rebelote, bis repetita. Mais moi, j'ai l'impression que l'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats. Et je pense que actuellement, ce qui se passe, justement, parce qu'elle ne repasse pas deux fois les mêmes plats, c'est pas du tout un problème de crise. Des crises, oui, il y en a. Il y a eu celle de 2008, la dernière. Mais là, ça y est, elle est surmontée, celle-là. Par contre, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien un tournant dans le capitalisme, et c'est quand même quelque chose qu'il faudrait quand même bien aborder. Y compris chez Marx, les limites du capitalisme, les limites objectives du capitalisme, indépendamment de la lutte des classes, indépendamment de l'action subjective. Marx, chez Marx, il y a bien une limite du capital. Or, je pense, alors comme j'ai que deux minutes pour parler, je ne peux pas aller très loin, mais il me semble que ce que tu as dit sur la spéculation financière, sur la désindustrialisation, sur les délocalisations, je pense, et là je suis très bref parce que je ne peux pas développer en deux minutes, mais que le capitalisme atteint une certaine limite historique. Et c'est ça qui est nouveau dans l'histoire, qui ne repasse pas deux fois les mêmes plats, et par conséquent, une limite donc interne au capitalisme, et alors là, je vais aborder encore une autre question, mais je ne l'aborderai pas parce que je n'ai pas le temps, mais la limite externe du capitalisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la crise écologique. Hein? Alors là, les limites externes du capitalisme sont terribles, et c'est peut-être celles-là, alors là, pareil, je parle comme ça en vrac, qui vont précipiter l'effondrement du capitalisme. C'est-à-dire la pénurie énergétique, c'est-à-dire les menaces qu'il y a, pas simplement sur le pétrole, mais sur toutes les matières premières, surtout que sont entrés dans la danse, ce qui n'est pas mince, ce qu'on appelle les pays émergents, qui eux vont précipiter cette, on peut dire, crise finale du capitalisme. Alors, la question, elle est là, c'est que justement, on n'est plus entre cette guerre de 30 ans, entre 1914 et 45, c'est terminé. Nous sommes bien entrés dans une nouvelle période qu'on peut estimer, disons, à partir de 75. Et je voudrais aussi aborder, mais je n'ai pas le temps, le problème dans le capitalisme moderne, la diminution absolue, pour ainsi dire, de la classe ouvrière, c'est-à-dire ce que tu appelles les ouvriers productifs, et l'augmentation faramineuse des emplois improductifs, tu en as parlé un petit peu d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça atteint les 70%. La classe ouvrière productive, elle n'est plus aux États-Unis d'ailleurs, elle est ailleurs. Elle est en Chine, elle est au Brésil, etc. Donc on voit bien que là, mais surtout ce que je veux montrer, c'est que tu as tort, à mon avis, de voir encore une fois une répétition de l'histoire. Donc je pense qu'on on va avoir affaire à quelque chose de nouveau dans l'histoire. Il faut encore savoir le distinguer.
Voilà. Merci Claude. Je ne m'attendais pas à moins de ta part. D'abord, comme quelqu'un a dit il y a longtemps, il n'y a pas de crise finale pour le capital si il n'y a pas une poussée révolutionnaire de la part de la classe ouvrière. Donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, c'est pas une répétition de l'époque de l'entre-deux-guerres, mais il y a des points en commun. Et je reviens à la citation de Marx avec laquelle j'ai commencé, le capital est une contradiction en mouvement où d'un côté le temps de travail tend à être réduit à son minimum, c'est-à-dire l'énorme contraction du salaire ouvrier dans les pays occidentaux, alors que de l'autre il est posé comme l'unique mesure et la seule source de richesse. Ça veut dire que je suis complètement d'accord qu'il y a des limites objectives du capitalisme, et je crois que le système déjà dans la crise de l'entre-deux-guerres avait atteint le seuil de ses limites. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement ouvrier a été défait par le stalinisme, par le fascisme, par le Front populaire, par le New Deal, etc. Donc, et surtout le niveau de destruction qui avait lieu dans les deux guerres mondiales et aussi par l'austérité des régimes divers qui se sont produits, a permis au capital de se renouveler avec un taux de profit qui était plus ou moins concluant avec la plus-value disponible. Donc, je crois que parler de la limite du capitalisme en soi, c'est très bien, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier le côté subjectif de la société et la question si la classe ouvrière sera ou non au rendez-vous au moment décisif. Oui, vas-y.
Oui, alors j'avais une question sur... Enfin, terminologie, pourquoi parler de pays occidentaux et pas de pays impérialistes dans ta conférence, pourquoi parler de pays occidentaux et pas de pays impérialistes? Je pense que c'est une différence peut-être entre trotskistes et gauche communiste, pour sortir les gros mots. Et sinon, pour répondre à des problèmes qui ont été posés dans la salle, moi, je pense que le capitalisme n'est pas du tout à son apogée. Il a été à son apogée avant 2007. Et effectivement, il y a toute la question de objectifs, limites subjectives. Je pense que les limites objectives, elles sont derrière nous. Et c'est 2007-2008. Après 1929, il y a eu des tas de fermetures de banques, des tas de faillites. Là, une banque a fait faillite. Et tous les États ont... Ah, catastrophe, tous les États sont intervenus à coups de centaines de milliers de dollars ou d'euros pour éviter toutes les faillites. Mais aujourd'hui, ce qui pèse sur la Grèce, l'Espagne, le Portugal, ce sont les banques ici, à Paris, qui ont leur siège à la Défense ou à Paris, Société Générale, BNP, etc., qui ont investi dans les actifs pourris américains, qui auraient dû faire faillite. Et ça aurait permis d'éviter toutes ces catastrophes. Enfin, je parle d'un point de vue ici de ce que je connais en Europe, toutes ces catastrophes qu'on voit dans les pays qui sont complètement dominés par les capitaux français, allemands et enfin des leaders européens. Donc moi je pense que le capitalisme est mort depuis 2007-2008, donc il n'est pas du tout à son apogée. Et je pense que Marx aide à comprendre ça parce que justement c'est au moment de sa meilleure apogée, je ne connais plus la phrase par cœur de Marx, mais c'est au moment de la plus grande apogée du capitalisme que il y aura l'effondrement, ce qui est le pronostic de Marx. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, enfin en tout cas les conséquences de ça. Et là, le monde va vers la guerre mondiale. Tous les pays sont en train de s'armer, de développer le Mali, la France va envoyer son intelligence service à elle pour développer comme au Rwanda, etc. Donc on va vers une nouvelle guerre mondiale, bien sûr. À quelle échéance? 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais moins de 20 ans, à mon avis. Je ne peux pas me développer plus.
Merci.
Pardon, je vous rappelle qu'on prend un minimum de, enfin, un temps de 2 minutes pour laisser le temps de réponse à Lorraine Gomer. Merci.
Pour répondre à quelques éléments de tes commentaires, moi je suis complètement d'accord avec toi que, à partir de 2007-2008, que le capitalisme, comme on disait autrefois, est non seulement au bord du précipice, il a sauté dans le précipice. Et pour répondre un peu ce que disait Claude tout à l'heure aussi, je ne crois absolument pas que cette crise soit dépassée. Elle est peut-être dépassée à la bourse, elle est peut-être dépassée dans la liquidité des banques et des grandes entreprises, mais le vrai tas de chômage aux États-Unis, entre autres pays, atteint en ce moment à peu près 15% et probablement plus. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de pays impérialistes au lieu de pays capitalistes? Moi, je crois qu'il va de soi que les États-Unis, la plupart des pays européens, le Japon, même un peu la Corée du Sud, sont des pays impérialistes. Et je considère que l'impérialisme est le produit du capitalisme. Et donc, je n'aime pas employer ce terme d'une façon à confondre les questions avec par exemple la théorie de l'impérialisme de Lénine que je rejette, etc., etc. Excusez-moi.
T'as plus d'eau?
J'en ai. Encore une question, voilà.
Je suis désolé un peu de reprendre là, mais tu n'as pas répondu à la question de monsieur, je ne sais pas son nom, sur la crise écologique, parce que ça un peu, c'est le point totalement aveugle de la vision marxiste. Je reconnais qu'à l'époque, ça manquait pas de charbon pour faire tourner la machine économique de l'époque. Mais là, je pense que la nature, elle ne fait pas d'idéologie, elle ne fait pas de marty, elle ne fait rien du tout, elle est... Et c'est des limites physiques, tout simplement. C'est que quand on a épuisé toutes les sources d'énergie, quand on a épuisé les matières premières, quand on a... parce que le problème du capitalisme, il n'est pas hors sol. Il est dans un environnement qui était, au début du siècle, qui était déjà bien malmené. Mais là, on va à l'aboutissement final. Et moi, ce qui va vraiment détruire et pas que le capitalisme, nos sociétés, notre civilisation, notre modèle occidental, c'est que les limites de la nature étant atteintes, eh ben, il va y avoir un effondrement déjà de l'écosystème, et puis le reste va suivre avec. Et là, il n'y a pas besoin de très grande analyse pour comprendre ça, hein. On le voit tous les jours, hein, les océans sont en train de se vider. On a quelques réacteurs de par le monde, des réacteurs nucléaires qui sont en train d'empoisonner et qui nous tuer en permanence, parce que ça pisse en permanence. Tout ça, c'est insidieux, mais c'est là. Et ça, on n'y peut rien, c'est de la physique. On peut faire toutes les belles analyses qu'on veut. Ça, pour moi, le problème, il est là. Et on ne va pas le résoudre, celui-là.
Merci. Tu as raison, j'ai oublié de répondre à cette partie de la question de Claude. Et je crois que ce que tu viens de dire est très important. Dans le développement de mon analyse, je n'ai pas eu le temps d'aller dans tous les aspects. Mais pour moi, comme j'ai dit en répondant à la question pourquoi est-ce que j'emploie le terme crise, effectivement, pour moi, la crise actuelle est une crise de non-reproduction. Non-reproduction, non seulement de la force de travail, mais aussi de l'environnement. C'est-à-dire que en se servant des ressources naturelles qui, en général, par définition, sont limitées, le capitalisme, par exemple, dans l'agriculture, doit soit remplacer ceux dont il se sert, soit développer de nouveaux moyens de faire autre chose. Je crois que il faut comprendre que le capitalisme dans le livre Le Capital de Karl Marx, surtout dans les deux premiers tomes, c'est vraiment un système clos où il n'y a que bourgeoisie et prolétariat. Donc les autres classes viennent plus tard. Dans le tome 3, il y a ceux qui vivent de la rente foncière. Et dans la discussion, dans le premier tome de l'accumulation primitive, il y a aussi une discussion des paysans. Je ne suis pas d'accord que Marx était complètement aveugle à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Il y a des petits propos, ça et là, dans le Capital et dans d'autres écrits, où il se penche précisément sur ces questions-là. Même dans les manuscrits des années 80, 40, il dit un animal reproduit ne fait que reproduire lui-même, quelque chose comme ça. L'humanité reproduit la nature entière. C'est-à-dire, je crois que ça pourrait être un titre, une introduction à une discussion très qui va très loin de l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement. Nous faisons partie de la nature, nous agissons dans la nature et notre activité a profondément transformé la nature comme aucune espèce avant nous, quoi. Donc, je crois que c'est très important d'intégrer la destruction de l'environnement comme la destruction de la force de travail, comme la destruction de tous les modes de production antérieurs et extérieurs du capital en tant que tel, comme les petits paysans, d'autres formes de petite production qu'il y a encore toujours dans le monde. Après tout, ce n'est que tout récemment que la population mondiale a dépassé 50% urbain. Et donc, il reste énormément de paysans, quelques-uns, beaucoup d'eux, sont bien sûr des salariés, mais d'autres sont encore des petits producteurs. Et donc, à l'extérieur du rapport capital-prolétariat, qui est le centre de l'analyse de Marx, donc l'intégration de ces forces de travail, l'intégration et la destruction et non-reproduction de la nature, tout ça, c'est très important. Et donc, excuse-moi de n'avoir pas eu le temps de me pencher là-dessus au cours de ma présentation. Donc, voilà. Oui.
Bon, deux minutes, c'est très court. Je vais essayer de parler très, très vite. pense qu'il y a un danger quand on a une vision trop économiste de l'histoire. Parce que tu as parlé, j'étais assez surpris, tu as parlé de la crise entre 14 et 45 comme si c'était simplement une grande destruction du capital. Mais ça va bien plus loin que ça. Et c'est pour cette raison que depuis 14, on est dans une nouvelle phase. Ce n'est plus très nouveau, il faut dire. Le capitalisme est expansionniste par nature. C'est une des rares sociétés humaines qui ne peut survivre que par l'expansion. Elle doit intégrer d'autres formes de société en elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans les années juste avant 14? C'est que, pour la première fois, le capitalisme s'est étendu sur la planète entière. Et ce n'est pas un accident si la première grande guerre impérialiste du XXe siècle, en fait, ce n'est pas 14, c'est 1905. C'est une guerre entre deux puissances asiatiques, la Russie et le Japon, pour savoir qui c'est qui va dépiécer la Corée et la Chine. À partir de ce moment-là, la planète entière est occupée par les puissances capitalistes. Ils ne peuvent plus s'étendre qu'aux dépens des autres. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans le capitalisme, c'est le militarisme. On ne peut s'étendre qu'aux dépens des autres, ça veut dire qu'on doit s'armer massivement d'une façon qu'on n'a jamais fait dans l'histoire humaine auparavant. Le résultat, c'est 14-18, c'est des dizaines de millions de morts, et en 39, on remet ça, et c'est encore pire. Et depuis 45, on a remis ça sans arrêt, mais dans des petites guerres, moins destructrices, mais quand même, il y avait la guerre de Corée, il y avait la guerre de Vietnam. Ça n'en finit pas. Je n'ai pas le temps de faire le dessin. Ça a aussi des grandes implications au niveau économique. Parce que toute cette machine militaire, il faut la maintenir. Le keynésianisme, fondamentalement, s'est mis en place avant Keynes, en 14-18, par le capitalisme d'État pour maintenir le système de guerre. Et si vous regardez les dépenses de l'État aujourd'hui, les deux grands côtés des dépenses étatiques, c'est premièrement la sécu, c'est tout ce qui est allocation chômage et ainsi de suite. Et même si c'est minime, c'est ridicule pour le chômeur, c'est gigantesque pour l'État. Et pourquoi on paye ça? Parce que si on ne le payait pas, ben les ouvriers seraient dans la rue, parce qu'ils n'auraient pas le choix. Ils ne pourraient pas faire autrement. Et la deuxième grande dépense, c'est le militarisme. Et c'est grâce à ça que le capitalisme... Enfin, c'est pas grâce à ça, mais c'est à travers ça que le capitalisme continue de survivre. Aujourd'hui, quelle est la situation auquel on se trouve confronté? Depuis longtemps, les révolutionnaires disaient qu'il y a deux alternatives pour l'humanité. Socialisme ou barbarie. Révolution communiste ou destruction de l'humanité. Et nous sommes face à cette alternative aujourd'hui. Je ne pense pas que nous sommes face à un danger de guerre mondiale, parce que pour ça, il faut des blocs établis, et ces blocs-là n'existent pas pour le moment. Par contre, là où le danger face auquel on est, c'est justement le danger de destruction écologique et destruction sociale à travers la désagrégation sociale qu'on voit dans les pays comme le Mexique, par exemple, avec le narcotrafiquant. Ça, c'est le danger face auquel on est. Et si la classe ouvrière ne met pas fin au capitalisme, c'est bien là, ça qu'on va, c'est la destruction de la planète et notre destruction à tous. Donc pourquoi la situation aujourd'hui, les Occupy, il faudrait bien ajouter évidemment les indéniables, c'est intéressant, c'est que c'est un grand mouvement, ça c'est très significatif, ça couvre une très vaste région. En moins, alors ça, je ne sais pas trop pour l'Occupy. J'ai l'impression que l'Occupy, c'était, comme souvent aux États-Unis, un peu suffisant à lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Espagne, il y avait des références très claires à l'internationalisme. Les gens savaient, on n'est pas dans la merde tout seul. On n'est pas dans la merde en Espagne, on est dans la merde partout. Et ça, ça pose des questions. Et une autre chose qui était très importante, je m'arrête ici, c'est que même si des gens comme Drive, Democracia Realia, voulaient pousser les gens dans des actions à la con, qui ne menaient nulle part, il y avait une résistance à ça. Il y avait beaucoup de gens, et surtout dans les quartiers ouvriers, qui disaient, on n'est pas prêt à faire ça. Nous, on veut comprendre plus profondément où on est et où est-ce qu'il faut aller. Et à partir du moment où la classe ouvrière se met à réfléchir sur quels sont les véritables enjeux de la situation, alors là, ça pourrait donner quelque chose. On n'y est pas encore, mais ça, c'est l'espoir qui peut faire vivre. Merci.
Merci de ton intervention. J'ai entendu dans tes propos un certain soubassement luxembourgiste. Et moi, pour ne pas entrer dans la polémique ou le pro-Luxembourg contre Luxembourg, moi j'ai été aussi, très influencé par la cause de Luxembourg dans beaucoup de détails. Je crois avoir mentionné, pas dans la même proportion que toi, beaucoup des tendances dont tu as parlé. J'ai passé très vite sur la question du militarisme, mais le thème fondamental de ma présentation pour l'actualité, c'est la destruction comme la nécessité du capital et la question ouverte si oui ou non la classe ouvrière va être à la hauteur de répondre à ça. Mais c'est compliqué. Et encore une fois, oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la crise de l'environnement, ce qui est très important. Mais bon, entre dans d'autres aspects de ce que tu as dit, ce serait, comme tu as dit, une longue discussion. Bon, de ce côté,
il y a encore ici, il y a une question.
Oui, moi je ne vais pas essayer de faire bouillir les marmites de l'histoire là, et ni répondre aux camarades, mais je voudrais te poser une question précise et courte. C'est, je voudrais que tu élabores sur le capital fictif et comment tu articules ça éventuellement avec la création monétaire et comment, quelle est ta visibilité, comment tu envoies la constitution et le développement.
Bon, ok. J'ai commencé par dire que pour moi, le capital fictif, ce sont des titres capitalistes à la richesse sociale qui ne correspondent à aucune plus-value. D'où est-ce qu'ils viennent? Enfin, je crois que dans chaque cycle du capital, y compris ceux étudiés par Marx, mais surtout dans le XXe siècle, le capital fictif, c'est quelque chose qui se développe au sommet, si tu veux, du cycle, quand il y a apparemment, comme par exemple avec la boule spéculative de la haute technologie aux États-Unis vers l'an 2000, ou bien encore plus grande, la boule spéculative dans l'immobilier de 2007-2008, c'est une sorte de boule qui vit d'elle-même et qui s'épanouit d'elle-même. Mais ça a existé depuis toujours. Ce qui a changé dans l'actualité, au cours du XXe siècle, c'est bien sûr que ces boules, les façons de les contrôler et de les faire épanouir sont devenues plus conscientes avec l'intervention des banques centrales et des choses comme ça. Donc, pour entrer dans l'histoire du développement actuel du capital fictif, je dirais grosso modo qu'à partir de la fin des années 50 déjà, le dollar, qui était la base du système monétaire international, est devenu problématique. Et ça s'est exprimé au cours des années 60 par une série de crises de plus en plus grandes, le danger d'un abandon, d'une fuite en dehors du dollar par un certain nombre de pays, y compris la France et peut-être même surtout la France. Et puis, avec l'écroulement du système monétaire d'après-guerre qui s'appelait le système Bretton Woods, on est entré dans une période où, au lieu de l'ancien système qui avait une certaine référence à l'or, maintenant le système n'a que une référence à la dette de l'État américain et l'épanouissement de cet endettement. Donc, je crois qu'en gros, c'est ça toujours un problème très grand. Enfin, on voit par exemple en Asie à peu près 4 000 milliards de dollars d'endettement des États-Unis dans les banques centrales de la Chine, de la Corée, du Japon, du Taïwan, etc. Et effectivement, pour moi, ça, c'est une boule de capital fictif qui ne va jamais être remboursée, comme un exemple. Donc, on peut aller très loin dans les détails, mais je crois qu'en gros, c'est ça un peu le cours du capital fictif comme je l'ai vu, comme je le vois se développer à partir des années 50. Bon, de ce côté, encore des questions ? Oui.
La seule question que j'ai pas évoquée de manière aussi
précise, je dirais, bien qu'elle traverse tout ton propos, c'est celle de la crise de la valeur. Et c'est autour de ça que... Et la circulation de valeur qui peut se traduire en capital fictif aussi.
Et la question ?
La question est de préciser peut-être dans cette notion de crise qui n'est pas une crise économique, qui est une crise d'un rapport social, qui est un rapport social capitaliste. Ce rapport est fondé sur la valeur, on est bien d'accord. Et donc, ce qui manque peut-être, je dirais, dans toute cette discussion qu'on a, on a parlé de la crise du rapport social, on a parlé de beaucoup de choses, c'est ce capital fictif que tu définis comme une chose qui ne sera jamais remboursée, elle fait aussi partie de la circulation de la valeur. Un capital circulant, là-dedans, où est-ce que tu le situes ?
Oui, oui, oui. Bon. Pour revenir à mes schémas, mes chronologie du développement du système, entre chaque crise, enfin, au cours du 19e siècle, c'était à peu près tous les 10 ans, il y avait un certain, ce qu'on pourrait appeler un étendard de valeur, c'est-à-dire une heure de temps social nécessaire. Comment ?
Étalage.
Merci. Et avec l'innovation de la productivité, d'un côté par les investissements dans le capital fixe, de l'autre côté de la force de travail vivant, cet étalon de valeur est constamment mise en question par le développement du capitalisme. Je dirais en général que la tendance centrale de l'accumulation capitaliste, c'est une sorte d'avortement de la valeur de la phase précédente. Et s'il n'y avait pas de système financier, s'il n'y avait pas de classes comme les paysans, les petits producteurs, etc., à l'extérieur du rapport central entre prolétariat et capital, s'il y avait en réalité le monde comme il est décrit dans les premiers et deuxième tomes du livre Le Capital de Marx, on verrait plutôt à l'apparence, à la surface du système, cet auto-avortement de l'étalon de la valeur. Mais il y a tout ça qui confond bien les choses, et surtout, à un certain moment au cours du cycle, alors que le capital est en train de se dévaloriser, il y a la possibilité du système financier de aider, enfin de retarder l'éclatement de la crise. Et par exemple, aux États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis la fin des années 50, c'est l'intervention constante du Federal Reserve Bank qui a empêché une déflation classique, comme on en a vu en 1929 ou dans les crises du siècle précédent. Donc, au total, j'espère que ça répond à ta question. La valeur est une chose qui est dans un processus constant de s'autodétruire. Et donc, chaque crise, après chaque crise, il y a le renouveau. Un nouveau étalon de valeur. Et voilà. Et ainsi de suite. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé une question ? Oui, vas-y.
Bon, merci pour ton optimisme, en fait. Enfin, je m'attendais pas qu'on me dise que la Troisième Guerre mondiale serait imminente. Du moins qu'elle sera à venir dans les 10 ans.
Je n'ai pas parlé de la Troisième Guerre mondiale.
Je ne sais pas, c'est comme ça en fait que j'ai perçu.
Je ne l'exclus pas, mais bon, vas-y.
Mais voilà, à la rigueur, bon, ce sera intéressant que tu puisses continuer à développer sur cette question-là. Et peut-être aussi pour rebondir sur quelque chose de beaucoup plus positif, je vais poser ma question très simplement, c'est-à-dire pour toi ou pour Marx, la société idéale, c'est quoi? C'est une société sans valeur? C'est une société sans système monétaire, qui soit scriptural ou qui soit enfin une société... voilà, c'est quoi?
Ok. D'abord la Troisième Guerre mondiale et ensuite le communisme, c'est ça? Ok. Déjà, dans la Deuxième Guerre mondiale, les capitalistes étaient très conscients de la possibilité d'une révolution prolétarienne contre eux. Il y a des études fascinantes là-dessus. Par exemple, les bombardements des villes allemandes ont été organisés de façon à détruire les quartiers ouvriers et non le capital fixe. Alors, pour qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 80% des usines allemandes étaient toujours en fonction. Et pourquoi? Parce que le capitaliste savait très bien que, comme on dit en allemand, Sie haben den falschen Schwein geschlachtet, ça veut dire vous avez tué le mauvais cochon, et la vraie guerre qui se préparait, c'était contre le bloc soviétique et tout ça. Donc, et bon, je peux continuer. Il y a des études fascinantes d'un historien anglais qui s'appelle Tim Mason sur les archives de la Gestapo entre 1943 et 1945. Et ils étaient obsédés par la possibilité d'une révolte ouvrière comme celle de 1918. Donc, tout cela pour dire que les capitalistes se rendent très bien compte des dangers et des possibilités d'une grande guerre, d'un grand affrontement. Dans la situation actuelle, je vois la plus grande possibilité d'une guerre, soit par intermédiaire, soit direct, comme étant entre les États-Unis et la Chine, et quelques alliés de la Chine. C'est seulement une hypothèse. Et on voit les affrontements dans la mer de l'Asie du Sud-Est, la marine américaine qui vient de réoccuper la base navale de Da Nang que les Américains ont construit pendant la guerre du Vietnam aux années 60 avec la permission du gouvernement socialiste vietnamien. Donc ça peut déboucher sur un conflit. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que pour le moment, surtout dans la rhétorique de la politique américaine, le danger numéro un pour les États-Unis, c'est la montée de la Chine et la mise en question de la dominance internationale des États-Unis. Bon.
Juste une parenthèse.
L'instauration de deux blocs qui actuellement, qui s'articulent autour finalement d'Israël et de l'Iran. C'est-à-dire qu'on entend suffisamment, on n'arrête pas d'entendre effectivement qu'Israël va attaquer l'Iran, etc. En tout cas, il y a deux blocs qui sont en train de se former, c'est-à-dire un bloc occidentalo-israélien et un bloc oriental qui s'articulerait justement autour de l'Iran, de la Chine, avec l'appui de la Russie, etc. Donc, est-ce qu'on est en train justement de voir émerger ces deux fameux blocs qui nous conduiraient justement à cette fameuse Troisième Guerre mondiale?
J'y ai pas mal réfléchi et je vois où tu veux en venir avec ça. Enfin, tu n'as pas mentionné Fidel Castro, Chavez, Hezbollah, un certain nombre d'autres forces qui aussi vaguement se sont alliées sur cet axe avec l'appui ouvert ou parfois clandestin de la Chine. Pour le moment, franchement, je ne sais pas. C'est une autre possibilité. Moi, comme j'ai vécu longtemps en Asie, je suis plutôt obsédé par les rivalités entre les États-Unis et le bloc asiatique. Mais je peux bien me tromper. Quant à la deuxième partie de ton commentaire, qu'est-ce que j'envisage comme l'alternative? Effectivement, oui, c'est un monde au-delà de la valeur, dans le sens où l'entend Marx dans le Capital, un dépassement de la monnaie, une société dans laquelle la médiation entre les gens et les secteurs de production ne se fait plus, surtout pas par le temps de travail social nécessaire, mais plutôt par un dépassement total de l'échange, c'est-à-dire un développement des forces productives à un niveau où l'échange éclate, comme elle a déjà éclaté, et où on pensera uniquement en termes de valeur d'usage. Pour moi, le fond du communisme, c'est une organisation sociale autour des valeurs d'usage, mais c'est surtout un dépassement du travail lui-même comme une activité qui définit les individus socialement. Il y a de très beaux passages dans les Grundrisse de Marx où il parle d'un dépassement de l'antagonisme entre le travail et le loisir dans une forme d'activité qui n'apparaît plus comme le travail, mais effectivement qui remplace ce que nous appelons aujourd'hui le travail. C'est très grossier comme une esquisse du monde que j'aimerais voir, mais c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Tu n'as pas posé une question avant ?
Si, tu as raison, Laurent. On l'a vu, on l'a posé tout à l'heure.
Voilà.
Là, j'avais juste une ou deux remarques. Tu disais qu'une des perspectives des luttes, ça pouvait être que les secteurs un peu traditionnels de la classe ouvrière, syndicats, etc., rejoignent la masse des précaires dans les collectifs. Je pense que c'est tout à fait exact, mais il ne faut peut-être pas sous-estimer le fait que la classe ouvrière un peu traditionnelle, justement, elle a déjà subi, surtout ces 10 dernières années, des attaques telles qu'elle fait elle-même partie d'une certaine manière du précariat avec la réintroduction. La réintroduction de méthodes basées sur la plus-value absolue, finalement, sur la journée de travail, la réintroduction de méthodes comme le salaire aux pièces, sous forme un peu plus élaborée que le 19e siècle, mais avec le système des primes, etc. Et la perte de ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, etc. C'est un processus qui est quand même super avancé. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça en termes de perspective pratique? Et puis, une question d'ordre plus général, un peu sur la question du communisme. Que la crise, c'était finalement ce qu'elle matérialisait, c'était la possibilité d'une planification sociale, mais à l'envers, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que les forces productives développées dont tu parles et qui ruineraient l'échange, elles existent en fait déjà, quoi, et c'est ce qui explique la crise. Et du coup, quelle conclusion politique tu tires de ça, en fait? C'est-à-dire, au-delà de la description économique du phénomène, comment tu vois l'intervention sur la base de ce constat-là dans la société pour le communisme?
Bon, je suis d'accord que la ligne entre la classe ouvrière organisée traditionnelle et la masse encore bien plus grande du précariat est devenue très grise et très ambiguë. Donc, voilà, c'est de plus en plus... Enfin, aux États-Unis, je ne connais pas exactement les chiffres, mais le nombre d'ouvriers qui travaillent dans la précarité aujourd'hui, ça doit dépasser de loin le secteur, l'ancien secteur organisé, entre guillemets, normal. Donc, il y a beaucoup de possibilités de lutte du genre dont j'ai parlé avec Longview, par exemple, dans tous les grands ports. Pour donner un exemple aux États-Unis, il y a ces mêmes dockers sur la côte est comme sur la côte ouest. Ils sont 10 000 à la côte ouest, 10 000 à la côte est, alors que par exemple dans les années 60, à New York, seulement à New York, il y avait 65 000 dockers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est l'automation. Et donc, c'est une illustration extrême de la façon dont l'automation a réduit de plus en plus l'ancienne classe ouvrière organisée. Excuse-moi, mais j'ai oublié le reste de ta question. Tu...
Non, je disais grosso modo que le communisme était possible.
Non, mais
et
moi je
crois. Tu vois l'intervention par rapport à ça, quoi.
Je crois que.
Parce que tu as fait bien, voilà, entre la notion de la crise et puis la lutte Occupy. Pas trop mal finalement, mais pas. Essaye d'aller jusqu'au bout des conclusions.
Pour citer encore une fois Karl Marx, le communisme n'est pas une idée, le communisme est un mouvement réel qu'on voit sous nos yeux. Et en particulier, je crois que vraiment déjà au début du XXe siècle, dans le secteur du monde dominé par le capital, il y avait la possibilité du communisme. Et sûrement maintenant, avec les forces productives qui existent, à l'échelle globale, il y a aussi cette possibilité. Je n'envisage pas une période de transition comme on l'appelait il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Je crois que, oui, bien sûr, ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais il y a la possibilité d'une transformation extrêmement rapide en se servant, par exemple, de cette énorme population qui aujourd'hui travaille dans la consommation improductive. Comment concrètement ça se fera? Je ne sais pas. Enfin, je crois qu'on verra émerger des luttes comme les luttes aux États-Unis avec Occupy, comme la grève des mineurs en Afrique du Sud, dont le camarade a parlé tout à l'heure. C'est les nouvelles formes d'expression du mouvement révolutionnaire seront aussi différentes de ceux du passé que, par exemple, les soviets en Russie en 1925 l'étaient par rapport au mouvement ouvrier précédent. Donc, il y a toujours de l'imprévu dans le développement de ce genre de mouvement et je crois qu'on en verra encore à l'avenir. Voilà, vas-y. Oui, toi.
Alors, déjà plusieurs choses. Premièrement, sur la question de la guerre, je crois qu'on a souvent tendance à penser le présent avec les idées du passé, et donc à penser que la guerre serait une guerre entre des États, alors que pour le coup, ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, c'est une guerre massive du capital contre le prolétariat, comme on le voit par exemple en Grèce ou ailleurs, qui produit pour autant une destruction énorme de valeur. Ça fait 6 ans d'affilée que la Grèce est en récession et par énorme de valeur a été détruite. Pour autant, il n'y a pas de guerre directement entre des États. Et je crois que cette guerre massive du capital contre le prolétariat va s'intensifier. Après, je voulais poser 2 questions. La première, c'est sur la question du travail productif et improductif. Moi, je suis un peu ce que tu écris et je trouve ça assez intéressant. Je te suis d'ailleurs assez sur l'analyse, mais quelque chose qui me gêne un peu, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à définir la question du travail productif dans la mesure où tout ce qu'on produit sous le capital est médié par la question de la valeur. Et que dans cette mesure-là, le fait de dire qu'il existerait d'un côté des choses qui seraient produites pour nos conditions matérielles d'existence et de l'autre côté ce qui serait produit socialement risque un petit peu de tomber dans une perspective qui est ahistorique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est plus, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder, c'est que tu as beaucoup parlé de la crise de la reproduction, moi je crois, et tu as aussi parlé beaucoup par contre du monde ouvrier. Et en particulier, quand tu utilisais ces termes, c'était essentiellement pour le définir de manière masculine. Il se trouve que la question de la reproduction, ça pose essentiellement la question d'un sujet, qui est en tout cas la question des femmes, qui sont essentiellement concernées par la reproduction de la force de travail. Et du coup, quelle place dans ton analyse pour justement la question des femmes et des luttes de femmes dans la perspective de la crise qui vient et qui est là?
Bon. Je commencerai avec la dernière partie de ton commentaire.